Et à la une en Israël avec vous, Jonathan Serrero, on va revenir sur la nuit dernière où plusieurs millions d'Israéliens ont été obligés de passer beaucoup de temps dans les abris en raison des tirs de missiles en provenance d'Iran, bien sûr. Dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou indique que dans les prochains jours, je cite, les conditions seront réunies pour voir le peuple iranien descendre dans la rue et pour faire tomber le régime iranien. On va faire le point de la situation avec notre invité bien connu de nos auditeurs, puisqu'il s'agit de Raphaël Jérusalemi, ancien membre du renseignement militaire, ancien officier même du renseignement militaire israélien. Et Jonathan, il est à votre micro.
Raphaël Jérusalemi, bonjour et Boker Tov.
Boker Tov.
On a donc tous passé en Israël une nuit quelque peu tendue en raison des tirs de missiles en provenance de la République islamique. Alors, selon certaines informations, l'arsenal de missiles de l'Iran aurait été réduit de 80% environ. Je voudrais savoir quelle était la stratégie aujourd'hui de Téhéran. Quelle est la stratégie de Téhéran aujourd'hui?
À mon avis, il n'y a pas vraiment de stratégie de Téhéran aujourd'hui, car il n'y a plus de haut commandement capable de donner des instructions précises à toutes les unités réparties à travers l'Iran. La chaîne de commandement est plus ou moins rompue, la chaîne de communication est plus ou moins rompue, et beaucoup de bases de missiles opèrent plus ou moins à leur gré. Alors, la stratégie avait été prévue à l'avance, parce que justement, les Iraniens prévoyaient le coup, le fait qu'ils seraient frappés durement. Ils ont instauré un système de commandement mosaïqué, ça veut dire avec des sous-commandements et des sous-sous-commandements capables de prendre des décisions sans qu'il y ait, même en l'absence d'un quartier d'état-major qui a été détruit. Il y a deux stratégies qui sont assez étonnantes. La première, et qui était vraiment qui a surpris même les Israéliens et les Américains, c'est l'attaque massive des pays arabes. Il faut rappeler que les Émirats Arabes Unis ont reçu plus de 3 fois plus de missiles et de drones que Israël de la part des Iraniens. Donc les pays arabes sont plus attaqués en fait qu'Israël. Les intérêts américains sont attaqués plus ou moins comme Israël, et Israël en fin de compte est en troisième voire quatrième position dans la quantité de projectiles jetés vers son territoire. Si on compare à juin dernier, la guerre des 12 jours, les salves journalières, elles se montaient à plus d'une centaine de missiles par jour. Aujourd'hui, on est à moins de 10 par jour. On est à 10% donc de moins de tirs. D'abord parce que la capacité de tir avait déjà été affaiblie en juin dernier. Et aujourd'hui, elle est encore plus affaiblie, puisque au début de la guerre, il y avait 80 missiles dans la première journée tirés sur Israël. Aujourd'hui, on est à 8 missiles par jour.
Certaines informations laissent penser, Raphaël, à une entrée prochaine des pays du Golfe dans ce conflit. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'ils en ont les moyens aussi?
Alors, les moyens, ils en ont. Si vous prenez les Émirats, si vous prenez MBZ, par exemple, c'est un fanat des arsenaux de guerre. Il a acheté au cours des années énormément de matériel militaire et ses pilotes sont bien entraînés. Il a la capacité d'agir, le Qatar de même. Ce sont des pays puissants, bien équipés. Le seul problème, c'est que même s'ils voulaient, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de manifester le désir d'entrer dans la danse, mais même s'ils le voulaient, je ne suis pas sûr que les Américains les laisseraient, car ça serait compliquer les opérations. Ils seraient plutôt gênants qu'autre chose. Les Israéliens et les Américains travaillent très bien ensemble. Ils ont eu énormément de manœuvres conjointes par le passé qui leur permettent de coordonner leurs actions. L'entrée dans la danse d'autres armées pourrait plutôt être une gêne.
Hier, le Premier ministre Netanyahou a lancé un appel au peuple iranien en indiquant que dans quelques jours, les conditions seraient réunies pour accomplir leur rêve de changement de régime. Est-ce que le calendrier, Raphaël, vous semble réaliste? On a entendu aussi Donald Trump évoquer la fin prochaine du conflit.
Alors, Donald Trump, on ne va pas se baser sur ce qu'il a évoqué ou pas, parce que ça change toutes les 5 minutes. Benjamin Netanyahou, c'est un petit peu plus cohérent. Je pense que oui, le temps approche à grands pas d'une possibilité technique, logistique pour le peuple iranien de se soulever en ayant des chances, malgré la présence de policiers encore armés hein, dans les rues de Téhéran, en ayant des chances tout de même de renverser le régime, seulement s'ils ont un soutien militaire, c'est-à-dire avec des forces spéciales qui interviendraient aussi au sol, et sans cette intervention terrestre, même limitée, le peuple iranien à lui seul n'est pas en mesure de renverser le régime.
Alors, sur le front libanais aussi, le Hezbollah tire sans cesse sur les localités du nord du pays. Les autorités du pays du Cèdre semblent totalement dépassées déjà depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois déjà. Que doit faire Tsahal pour anéantir totalement l'organisation terroriste chiite libanaise? On a l'impression que l'armée israélienne en garde encore sous le pied et on se demande encore pourquoi au regard des agressions répétées du Hezbollah, Raphaël.
Alors, effectivement, il y a ici... une nécessité d'en finir avec cette menace de Hezbollah, surtout devant l'incapacité de l'armée libanaise de le faire à notre place. Et donc il y a, dans un premier temps, on parle toujours de litanie, de la rivière Litanie, comme ligne, comme de sorte de frontière, au-delà de laquelle, si le Hezbollah continue à exister, et il représente une menace moindre, il faut donc repousser le Hezbollah vers la Litanie. Il faut surtout, dans un premier temps, établir une zone tampon d'une dizaine de kilomètres au nord de la frontière israélienne et qui correspond à la portée des missiles anti-chars utilisés par le Hezbollah pour tirer vers les villages frontaliers israéliens. C'est la première étape. Il faut bombarder, comme c'est le cas en ce moment, tous les intérêts du Hezbollah et supprimer les hauts dirigeants du Hezbollah par la voie des airs, par l'artillerie. L'entrée terrestre est extrêmement dangereuse, mais on n'aura pas le choix si on veut démanteler le Hezbollah comme le Hamas. Il s'agit d'opérations qui vont durer extrêmement longtemps, qui sont extrêmement dangereuses, et on est malheureusement parti pour un tour. Je rappellerai tout de même que même avec l'Iran, mais surtout par rapport au Hamas et le Hezbollah, nous ne devons jamais qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos propres gouvernements, l'erreur de les avoir laissés se renforcer durant tant d'années. L'évacuation du sud Liban, l'évacuation de Gaza aurait dû être suivie par une surveillance beaucoup plus étroite de ce qui passait là-bas et une intervention dès que on voyait que ces factions terroristes prenaient de l'ampleur, se renforçaient. L'armée a insisté là-dessus pendant des années et n'a jamais reçu le feu vert véritable pour faire le travail jusqu'au bout. D'où la difficulté aujourd'hui d'y parvenir.
Oui, totalement. Est-ce que vous ne pensez pas que les velléités de cesser le feu du président Aoun sert en réalité les intérêts du Hezbollah? Il y a une sorte de concordance des intérêts entre les autorités libanaises et le Hezbollah qui apparaît aujourd'hui au grand jour, malgré les appels à la paix.
Ben, il ne faut pas oublier que le Hezbollah a des membres dans le gouvernement, au Parlement libanais. Il ne faut pas oublier que près d'un tiers des officiers de l'armée libanaise sont chiites et donc ont une sympathie naturelle pour leurs cousins, oserais-je dire, du Hezbollah, bien que certains généraux chiites de l'armée libanaise aient déclaré qu'ils étaient contre le Hezbollah. Il y a donc au Liban une sorte d'opinion partagée par rapport au Hezbollah. Il reste encore beaucoup de sentiments anti-israéliens parmi les dirigeants libanais, ce qui n'arrange effectivement pas les choses.
Juste toute dernière question sur ce conflit avec le Hezbollah. Vous pensez qu'il ira au-delà de l'opération actuelle contre l'Iran ou les deux opérations sont liées?
Ben, les deux opérations sont liées d'une certaine manière, mais en fin de compte, le Hezbollah est tout proche. Il représente une menace assez importante, surtout pour les habitants du nord d'Israël, qui en pâtissent durement en ce moment, une fois de plus d'ailleurs. Mais par rapport, vous donner un exemple, les pilotes qui partent vers les missions lointaines en Iran, frapper des cibles au cœur même de l'Iran, certains d'entre eux, sur la route du retour, survolent le Liban et frappent encore des cibles au Liban avant de rentrer à leur base en Israël. Donc c'est à ce point-là lié les deux fronts.
Raphaël Jérusalemi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.